Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, c'est vers toi que nous tournons nos cœurs et nos regards. En cette soirée où nous est donné encore l'opportunité de nous assembler et de partager ces quelques moments. Seigneur, nos rassemblements sont vains si toi tu n'es pas là. Et c'est pourquoi nous venons tels que nous sommes, réalisant, Père, que tu nous as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Et nous saluons ta présence et merci pour les bienfaits, ô Dieu, que tu vas nous faire et que tu as déjà fait pour nous, Père. Pardonne nos offenses, ô Dieu, nous sommes des humains qui bronchons d'une manière ou d'une autre, mais nos regards sont tournés vers toi. Entre en scène, Père, et agis en chacun de nous. Confirme ta parole au milieu de nous, car c'est ta parole et personne n'est obligé de faire des promesses. Tu l'as fait de ta propre volonté par ta souveraineté. Aussi, viens toi-même accomplir cela. Nous nous remettons entre tes mains. Inspire-nous, donne la révélation au Dieu de miséricorde pour que nous saisissions ces vérités que tu as en réserve pour nous. Merci, souviens-toi de tous les bien-aimés qui sont assemblés, ô Dieu, en divers endroits, pour que tu puisses les instruire, ô Dieu, et que tu puisses les bénir, comme nous demandons la même chose pour nous qui sommes assemblés ici. Sois notre force et notre secours, Père éternel. Illumine les yeux de nos cœurs, Père éternel, afin que nous voyons la grandeur, ô Dieu, de ton nom, et que notre joie soit parfaite en toi. Béni sois-tu, Père, en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va continuer, mais j'ai été amené à faire un peu un arrêt. La fois passée, on avait vu un peu la marche des enfants d'Israël et leur entrée dans la terre promise. On avait vu qu'il y avait la marche et l'entrée dans la terre promise, il y a des similitudes. Et je vous avais dit qu'on parlerait peut-être des fêtes de l'Éternel. Mais j'ai été amené à parler d'autres choses parce que ceux qui sont sortis, ils sont sortis par la foi. Donc il nous faut voir un peu notre marche par la foi. Et pour cela, on va parler un peu d'Abraham, le père de la foi. On va lire Genèse 12, à partir du premier verset. Donc le titre sera « La foi d'Abraham ». L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Remarquez, c'est Abraham qui avait été appelé et il sortit avec Lot, un membre de la famille. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Abraham était riche. On parlait l'autre fois chez mon frère Albert. Il semble que les chrétiens sont des pauvres et que les chrétiens ne doivent pas être riches. Nous voyons que le père de la foi était riche. Donc, Dieu n'a jamais interdit à un chrétien d'être riche. Mais sois d'abord en Christ, alors ta richesse, tu l'utiliseras à bon escient. Bien, je disais, Abraham prit Sarah, sa femme, et l'autre fils de son père, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. C'est le pays que Dieu a donné à Abraham, hein, avec sa postérité. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Les Cananéens, était alors dans les pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ces pays à ta postérité. » Voyez ici, Abraham, Dieu lui donne d'abord le pays avant qu'il ait la postérité. Très, très important, d'abord le pays et ensuite la postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. On va prier. Merci Père de nous éclairer encore pour cette portion des Écritures qui vient d'être lue. Sois béni pour la grâce que tu répands au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, vous vous asseoir. Partir sur base d'une promesse d'un Dieu qu'Abraham ne connaissait vraiment pas, car Abraham vivait dans un milieu polythéiste. Et nous savons qu'Abraham avait tant désiré avoir une progéniture. Et peut-être qu'il a prié tous ses dieux, les dieux de ses pères, mais sans aucun résultat. Il était riche, mais il lui manquait des enfants. Et c'était une préoccupation pour lui. Et il avait maintenant 75 ans et sa femme 65 ans. Bien au-delà de la ménopause, donc l'espoir d'avoir un enfant était complètement... La probabilité d'avoir un enfant était complètement nulle. Le temps où il pouvait espérer pour sa femme de concevoir était vraiment passé. Alors qu'allait-il perdre s'il partait et s'il suivait ce Dieu qui lui promettait de lui donner une progéniture et surtout de faire de lui une grande nation et de le bénir? C'est sur cette base qu'Abraham va quitter la maison de son père. Remarquez, il va quitter la maison de son père. Ça nous fait penser à Genèse avec Adam, où Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il ne savait rien de ce pays. Partir, ne sachant pas de quoi demain sera fait. Quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, exige une force plus grande que celle qui le retenait. Il faut absolument que cette force en toi soit plus grande, autrement tu ne partiras jamais. Il devait affronter de nouveaux défis, un nouvel environnement, une nouvelle vie. Comment va-t-il être accueilli dans une terre étrangère? Est-ce que ces lendemains seront-ils assurés? Partir sans savoir où l'on va, ni ce qui va arriver, juste parce qu'il a entendu une voix qui lui a dit de quitter. C'est ça la marche par la foi. Faire confiance à celui qui te fait la promesse. L'homme vit par la foi, car il ne sait pas de quoi demain sera fait. Il ne sait pas s'il vivra ou pas. Et pourtant, il fait des projets. La foi est la chose la plus commune qui soit. Mais la foi en quoi ou en qui? Tout dépend de là où tu mets ta foi. La foi est cette force qui te pousse à quitter. La foi est cette force qui te pousse à agir. Et croyant que tout ira au mieux pour toi. La marche par la foi ne t'épargne pas de te poser des questions. Et parfois des doutes peuvent surgir. Mais cette force en toi qui te pousse à aller de l'avant est toujours loin est plus forte que le statu quo. Il faut avancer. C'est comme la vie, il faut avancer. Aucune personne ne peut t'expliquer la foi. Elle est là où elle n'y est pas. Personne ne peut forcer l'autre à croire. Ta vie est ta vie. Tout dépend de qui te dit « quitte ». Abraham eut foi en l'Éternel et il partit comme l'Éternel lui avait dit. La vie par la foi n'est pas un chemin facile. Et Abraham va être confronté à diverses situations difficiles. Mais l'Éternel va le protéger et même corriger ses erreurs parce qu'il est sorti à la voie du Seigneur. Son chemin de foi va être parsemé de beaucoup d'embûches et de pièges. Il devait vaincre ses propres peurs et l'amour de sa famille. Nous avons vu qu'il est parti avec Lot et il a laissé tous ses parents. Dieu exige donc une séparation totale. Nous voyons que si nous lisons Genèse, l'histoire d'Abraham, Abraham va construire des autels chaque fois que l'Éternel lui apparaissait. Et là, il invoquait Dieu. Et nous savons que l'autel est le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Abraham quitte le pays, mais il emporte avec lui Lot, son neveu. Certainement, les parents de Lot étaient déjà morts et certainement, c'est Abraham qui l'a élevé. Et il ne pouvait pas laisser celui qu'il considérait comme son enfant. L'amour de ceux qui nous sont chers, les membres de nos familles, peuvent être un obstacle sur le chemin de la foi. Abraham va donc affronter ses propres peurs. Il aimait tellement la vie qu'il était prêt à livrer sa femme pour qu'il sauve sa vie. Nous parlons du père de la foi. C'est incroyable, mais c'est comme ça, la vie de la foi n'est pas facile. Abraham, chemin faisant, il voulait être certain que c'est Dieu qui lui avait demandé de sortir. Il va demander un signe. Deux signes vont lui être donnés au travers de la vision qu'Abraham a de la part de l'Éternel. Quels sont ces signes? On va lire dans Genèse 15 à partir du premier verset. Le texte est un peu long, mais on va tout lire. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense est grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. » Si tu peux le compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. La confiance à l'Éternel est très, très importante. L'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Il parle de posséder le pays. L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Vous regarderez ici, il y a 3 animaux domestiques et il y a 2 oiseaux qui volent dans le ciel. On reviendra peut-être un jour sur ça. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre et il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux qui représentent des êtres célestes. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Les enfants d'Israël sont restés en Égypte 400 ans. Dans le désert, ils ont fait 40 ans. On reviendra sur ces éléments, sur ces chiffres. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, remarquez, quatrième génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Tout ça a une signification. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je te donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Ici, l'Éternel fit alliance avec Abraham, mais l'alliance ici concerne le pays qu'il va donner à sa postérité. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez plus loin qu'Abraham va avoir la circoncision. Et la circoncision, ça c'est lié à la postérité. C'est aussi un signe d'alliance. Donc, il y a le pays et il y a la postérité. Avec le pays, nous venons de lire l'alliance que Dieu vient traiter ici, avec la postérité, il lui donne un signe, et le signe, c'est la circoncision. On en a abondamment parlé ces derniers temps. Continuons au 19. Le pays des Kéniens, donc je vous donne, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens et des Cadmoniens, des Éthiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgaziens et des Jébusiens. Si vous voulez connaître la signification de tous ces noms-là, Frère Jacques, il y a très longtemps, il a parlé de tous ces peuples-là. Donc, je disais qu'il y a les pays et il y a la postérité. Dieu donne d'abord le pays, ensuite il donne la postérité. Et si on remarque bien, il est dit, quitte ton pays. Il s'agit, comme j'avais dit tout au début, d'un mariage. C'est l'alliance d'Abraham et de Dieu. Nous avons parlé la fois passée comment Dieu s'est introduit dans le nom d'Abraham. Il s'appelait Abraham et il est devenu après Abraham pour montrer que Dieu faisait alliance avec lui. Ça veut dire que le mariage change le nom de l'épouse. Ici, Abraham est comme l'épouse. Bien. Donc, Abraham est le père de la foi parce qu'il a cru, et c'est comme ça que Dieu va changer son nom. Je disais tout à l'heure, Dieu lui donne d'abord un pays, j'insiste là-dessus, Dieu lui donne d'abord un pays, ensuite il va lui donner la postérité. Le principe donc est simple, il faut que l'homme ait un endroit où poser sa tête avant de penser mariage. C'est très, très important. Où habiterez-vous avec votre femme? Et qu'est-ce que vous allez lui donner à manger? Même la nature nous apprend que l'oiseau fait d'abord son nid avant qu'il ne ponde des œufs. C'est aussi simple que cela. C'est des principes divins. Dieu prépare une terre pour Abraham avant que la progéniture ne vienne. Et pourtant, il était dans ces pays-là, il était comme étranger et voyageur. C'est bien d'avoir une progéniture, Mais si on n'a pas d'endroit ou de pays à soi, c'est compliqué car la famille risque d'être errante. Avant que la femme ne soit formée dans le jardin, Dieu va placer Adam dans le jardin. C'est d'abord Adam qui est placé dans le jardin. C'est le lieu où il devait habiter. Comme Dieu a donné à Abraham un pays, il va donner à Adam le jardin. Et quand la femme arrive, elle trouve Adam bien installé dans le jardin. Elle arrive dans des conditions idéales pour elle. Elle n'avait pas à se tracasser pour chercher un endroit pour aller dormir. Le manger n'était vraiment pas un problème. Comme je le disais l'autre jour, la femme est l'être le mieux protégé au monde. Ou en tout cas, elle devait l'être. Elle est la benjamine de Dieu et Dieu l'a placée sous l'autorité et la protection de l'homme. C'est par elle que la vie va être manifestée. Et la vie est sacrée. C'est dans la femme que la vie de l'homme s'incarne. Oh, si les hommes pouvaient comprendre cela. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera. Pour quitter, ça demande de la foi. Car tu ne sais pas à qui tu vas t'attacher. Est-ce pour ton bien, on l'espère, ou pour ton malheur? Pourquoi celui-ci et pas celui-là? Pourquoi celle-ci et pas celle-là? Le but de s'attacher, c'est l'unité. Et on ne peut pas attacher des choses qui sont de nature contraire. Quitter sous-entend donc une dynamique, une action, un mouvement, une force pour s'éloigner du champ de la famille. C'est une recherche d'indépendance, d'un nouvel équilibre d'accomplissement de soi. Ne quitte que celui qui est responsable, celui qui veut voler de ses propres ailes. Ce qui te pousse à quitter doit être plus fort que ce qui te pousse à rester. Il y a donc deux forces en présence dans l'homme, la force qui le retient et la force qui l'attire. Les deux forces opposées. Pour l'homme, la femme est cette étincelle qui va activer en l'homme cette force motrice, ce mouvement de quitter. S'il n'y avait pas la femme, l'homme ne quitterait pas. Il n'y a pas de raison. Ceci est important car la vie est mouvement. Remarquez qu'il n'est pas dit que la femme doit quitter. Car l'homme représente la vie, gardien de la semence de vie. Je répète, la vie est mouvement. Si vous remarquez, vous qui avez fait la biologie, l'ovule n'a pas de vie en elle, du moins pas au sens absolu. Elle est poussée par les cils qui tapissent l'intérieur des trompes dues aux contractions. Que Dieu est merveilleux, parce que tout est symbole. Par contre, la semence de l'homme, les spermatozoïdes, sont constamment en mouvement. Ils se déplacent par eux-mêmes. C'est ça la vie. La vie est mouvement. C'est pourquoi l'homme représente la vie. J'espère que vous voyez vraiment l'image. J'étais à la maison, il y avait de quoi sauter. Hein. Jésus-Christ est la vie. C'est pourquoi cette vie doit être plantée en toi, en l'épouse de Christ, comme la vie de l'homme doit être plantée en sa femme. Oh là là, comprenez-vous les choses? Et l'homme est l'image de Christ. C'est pourquoi l'homme représente la vie. L'épouse n'a pas de vie en elle-même. La vie doit être plantée en elle. On voit les types même dans les moindres détails. Tout est là, c'est bien clair. Eh bien, si on considère que l'homme, c'est la vie, on peut prendre l'exemple d'une locomotive. L'homme est comme la locomotive et la femme comme le wagon. Le wagon est chargé et équipé par Dieu car il est une aide. Ce qui signifie que la femme doit se préparer pour être cette aide dont l'homme a besoin. Ce wagon est préparé dans le cocon familial à cette responsabilité d'aide, mais aussi par sa formation et son instruction, et contient tous les matériels d'aide. La femme, quand elle vient, elle contient tout ce qu'il faut pour aider l'homme. Je disais, elle doit se former et s'informer spirituellement, psychologiquement et physiquement pour mener à bien sa mission. Remarquez, le wagon à la station est statique. Voyez l'image de l'ovule. Il faut que quelque chose le pousse. Aller dans un quai ferroviaire de chargement de marchandises, la locomotive vient s'amarrer. C'est pourquoi l'homme quittera la locomotive. La locomotive a la vie en elle, le wagon n'a pas de vie. La locomotive vient s'amarrer au wagon chargé et scellé. Remarquez, le wagon est chargé et scellé. Gardez ces mots. Et Dieu a scellé lui-même la femme pour la mission qu'elle est censée jouer auprès de son homme. Ensuite, elle, je parle de la locomotive, va tirer ses wagons pour une destination donnée. C'est ça la prédestination. Ces wagons vont être tirés vers la demeure de l'homme, c'est-à-dire du mari, avant que celui-ci, le wagon, soit décelé. Et le mari a le droit divin de le faire car il a payé le prix, la dot. Et y découvrir, c'est à ce moment-là que l'homme peut découvrir les trésors cachés que Dieu a mis en elle. Et pour cela, les machinistes, les maris, c'est la destination où il amène le wagon. C'est la vision de l'homme. On a parlé l'autre fois avec les jeunes de la vision. Il faut que l'homme ait une vision. La destination, c'est l'accomplissement de la vision. C'est pourquoi l'apôtre dit, dans 1 Corinthiens 11, 1, 2, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et la vierge est scellée et n'a jamais été touchée par un homme. Vous voyez l'image? C'est pourquoi vous devez naître de nouveau. Parce que le scellement ne vient qu'après cette naissance de nouveau. Autrement, ce n'est pas possible. L'apôtre dit dans Éphésiens 4, 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Remarquez, vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. La Vierge est scellée jusqu'au jour de la nuit des noces. Je parle en type. Il y a vraiment de quoi bondir. Mes sœurs, n'épousez jamais quelqu'un qui ne sait pas où il va. Et jeune homme, ne vous amarrez jamais à un wagon qui ne servira pas pour la mission à laquelle vous êtes appelé. À l'endroit des chargements, le chargement est connu et la destination aussi. Et Dieu sait qu'il a mis, Dieu sait ce qu'il a mis en la femme. Sondez-la et réciproquement, sondez-les. Ne transigez point sur les valeurs cardinales pour toi. C'est la foi qui te fera agir. Et la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend la parole de Dieu. Écoutez et agissez en conséquence. Il n'y a pas de recette pour aller chercher une femme ou pour les hommes. Parce que les jeunes gens se posent beaucoup de questions. Il n'y a pas de recette. Dans la Bible, quand on lit, il n'y a aucun mariage qui soit similaire à un autre. Les différentes situations qui sont arrivées, et nous voyons comment les mariages se sont déroulés. Le tout, c'est honorer ses engagements. Donc, je disais, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Écoutez et agissez en conséquence. C'est l'homme, la vie, nous avons dit que la vie est mouvement, c'est l'homme qui quitte et va s'attacher parce que c'est la vie qui est en mouvement. Et c'est l'homme qui dirige l'attelage ainsi formé. Le couple, la famille, est une société en miniature. Et comme toute société, on en a déjà parlé il n'y a pas très longtemps, il y a un chef. Et le chef n'a pas plus de valeur que l'employé. Souvent, on pense que l'homme est supérieur à la femme. Fausse conception. D'ailleurs, si vous examinez beaucoup plus, le dernier produit est toujours le meilleur. Juste, hein, les updates, vous qui connaissez, qui faites l'information. L'update est plus. Et normalement, doit être plus efficace que la version actuelle, normalement. Bien, merci Michel, normalement. Bien. Et dans la société, comme je disais, Dieu a désigné l'homme comme chef. Le chef ne dirige pas seulement, c'est-à-dire ce n'est pas qu'il a seulement l'autorité, mais il est le soutien, ça veut dire la fondation et la colonne. Aujourd'hui, on voit que les femmes veulent être indépendantes. Je suivais ce matin que le nombre de femmes qui ont des enfants par insémination artificielle a augmenté de 50%. Elles font recours à un donneur de sperme. Elles ne veulent pas des maris, mais elles veulent des enfants. Pourquoi les femmes veulent des enfants? Parce que c'est dans leur nature intrinsèque de vouloir materner, nourrir et câliner. Cette dame avait 35 ans et il disait qu'il n'a pas trouvé de mari malgré les relations qu'elle a eues. Alors, elle s'est tournée vers l'insémination. Je ne connais pas la vie de cette femme. Et remarquez comment ces enfants vont grandir sans père. Et nous avons vu que les pères sont des repères. C'est pourquoi la société devient de plus en plus névrosée. Et sachant que les femmes ont une tendance naturelle à l'anxiété et parfois à la dépression, la vente des anxiolytiques, c'est ça, ou des psychotropes, suit une évolution exponentielle dans les pays dits développés. Ce sont souvent les femmes qui sont les principaux consommateurs. 42% contre 27% pour les hommes. Vous pouvez voir ça sur Internet. C'est pourquoi les hommes doivent bien traiter leurs femmes pour ne pas les exposer à ces risques. En plus, comment résister à un environnement des hommes de plus en plus compétitif, car les femmes aujourd'hui travaillent. Elles sont surchargées et surmenées. Elles doivent travailler et en même temps s'occuper, dans la majorité des cas, des enfants et de la maison. Et il y a des hommes qui n'aiment vraiment, qui ne veulent même pas faire les travaux domestiques. Je ne sais pas pourquoi. C'est trop leur demander. On disait que les sociétés traditionnelles étaient des sociétés patriarcales et que les femmes étaient considérées comme des esclaves. Mais les sociétés modernes n'ont pas vraiment amélioré la condition de la femme. Elles les ont asservies. On court et on court et pour aller où? La Bible dit, ne déplacez pas les bornes anciennes. Celui qui s'amuse à les déplacer se perdra et perdra ses frères. On pense toujours que les anciens étaient pas sages et intelligents et que notre génération à nous, ou les nouvelles générations, sont plus sages et plus intelligents. Souvenez-vous que les principes de la vie n'ont pas changé. Les hommes naissent, ils marchent, ils mangent, ils boivent, ils travaillent, ils construisent, ils jouent, ils dansent et ils se multiplient. Ça n'a pas changé. Les besoins fondamentaux de l'homme n'ont pas changé. Ce sont les désirs qui ont été exacerbés et amplifiés par la convoitise. Le monde nous attire par des choses qui brillent, alors que c'est de l'or plaqué. Ce que Dieu a établi restera ainsi. Vos moyens pour y échapper ne feront que vous asservir davantage. Se marier est un acte de foi en la personne que vous voulez épouser. Pourquoi je parlais d'Abraham. Mais plus encore, la foi en Dieu qui ordonne toutes choses. Votre foi en Dieu conditionnera votre foi à la personne que vous voulez épouser. La Bible dit dans Hébreux 11, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire que la foi est une force surnaturelle. Une force surnaturelle en toi qui te pousse à avoir cette ferme assurance des choses que tu espères et à voir ou à démontrer des choses qu'on ne voit pas. Tu ne sais pas te l'expliquer et personne ne peut te l'expliquer. Elle est au-delà de nos cinq sens. La foi va dans le monde invisible pour saisir des choses que naturellement tu es incapable de saisir. La foi matérialise ces choses. Et pourtant, la foi, c'est la chose la plus commune qui soit à tous. Car nous vivons tous par la foi. Et tout ce que nous l'accomplissons par la foi. Car Dieu a placé en chacun de nous une dose de foi, selon la mesure des grâces départie à chacun. Dans Éphésiens 4, 7, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. La foi donc est une révélation que Dieu donne lui-même à l'homme. Je n'ai pas noté la référence, mais ça dit ceci. En effet, Moïse, je crois que ça doit être dans Hébreu, je crois, ou Romain. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Ici, il y a une opposition entre la loi et la foi. La justice qui vient par la loi, on fait les choses. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais ici, on va au-delà de l'homme qui mettra ces choses en pratique. On va plus loin. C'est les motivations intérieures. C'est ce à quoi Dieu regarde. Évidemment qu'il faut pratiquer ce qui est juste. Ce dont tu as besoin se trouve en toi. Que Dieu aide à chacun à trouver ce que Dieu a mis en lui. Car c'est ce que Dieu a mis en toi qui agira par la foi. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, lorsqu'on lit les évangiles, le Seigneur disait, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Parce que la chose qui devait agir était dans la personne elle-même. Et cette parole n'est pas loin, elle est même en toi. C'est ce qu'on vient de lire. La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Que Dieu plante en toi la parole de foi, car c'est elle qui agira pour tout ce dont tu as besoin. Et là, c'est le but des serviteurs de Dieu d'édifier cette foi en toi par la parole de foi que Dieu met en leur bouche. Que Dieu leur donne cette grâce, que Dieu les aide. Priez beaucoup pour eux, car cela va de la croissance de votre foi. Dieu veut des hommes parfaits, et c'est dans l'intérêt de nous tous et pour notre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Prions. Bien-aimé Père, il est des choses que l'entendement humain ne peut comprendre. Il est des choses, Père éternel, ô Dieu, que l'homme par sa réflexion ne peut saisir. Comme il est dit, ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que les oreilles n'ont point entendues, mais des choses que toi tu as voulu révéler à ceux qui t'aiment. Merci, ô Dieu, pour cette grâce. Car nous réalisons, Père, que, ô Dieu, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend la parole de Dieu. Aussi, donne-nous cette soif de ta parole et plante en nous cette parole, Père éternel, ô Dieu, afin que par elle, ô Dieu de miséricorde, des délivrances soient faites, afin que par elle, des miracles soient accomplis, afin que par elle, des vies soient sauvées. Bien-aimé, ce n'est point la parole d'un homme, ce n'est point, ô Dieu de miséricorde, la parole d'un quelconque prédicateur, mais c'est ta parole qui transforme le cœur, Père. Aussi donne à tes serviteurs de proclamer ta parole avec autorité, ô Dieu de miséricorde, comme tu l'as fait autrefois, Père éternel, ô Dieu. Merci, ô Dieu, d'aider tous tes serviteurs, Père. Le temps est grave, l'heure est fort avancée, et nous réalisons que nous avons besoin, hier, aujourd'hui plus qu'hier, Père éternel, et demain plus qu'aujourd'hui de toi. Viens au milieu de nous, Père éternel, ô Dieu. Redresse ce qui est tordu en nous, Père éternel. Ôte ce qui a de trop, Père éternel, et ajoute ce qui manque. Fasse que nous puissions marcher dans l'équilibre de ta parole. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, ô Dieu de miséricorde, de ta grâce, Père éternel, ô Dieu. Merci pour ta parole qui est vie. Merci pour ta parole qui est délivrance. Merci pour ta parole qui est guérison. Ô bien-aimé, et s'il y a des malades parmi nous, que la puissance de Dieu entre en scène, Père éternel, ô Dieu, pour guérir, pour délivrer, Père éternel, ô Dieu. Et s'il y en a, Père éternel, ô Dieu, qui sont pris dans des tourbillons, Père éternel, des péchés ou quelque situation que ce soit, que la puissance de Dieu entre en scène, Père éternel, pour arracher l'âme de cette servitude et accorder victoire, Père éternel, ô Dieu. Ainsi, ton nom sera glorifié au milieu de ton peuple par des témoignages de ce que toi, tu auras fait. Merci, Père éternel, pour cette occasion nous donner. Viens, Père éternel, ô Dieu, agis et travaille en chacun de nous, Père éternel, ô Dieu. Que cette parole de vie, Père éternel, ô Dieu, transforme le cœur, Père éternel, ô Dieu. Oui, Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous ne sommes rien, Père éternel. Nous nous rendons compte de notre fragilité, de notre vulnérabilité, Père éternel. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, le grand protecteur, Père éternel, ô Dieu, afin de nous garder sous tes ailes, Père éternel, ô Dieu. Le vent souffle de toutes parts, Père éternel, ô Dieu. Oh, fasse que nous puissions trouver refuge en toi, Père éternel, car c'est le seul lieu sûr que nous ayons. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Souviens-toi de notre pasteur, Père, pour le soutenir, le fortifier, Père éternel. Tu connais ses combats, tu connais sa vie, Père éternel, ô Dieu. Que ta grâce s'étende à lui, à toute sa famille, Père éternel, ô Dieu. Souviens-toi, ô Dieu, des diacres, Père éternel, et des administrateurs, Père éternel, ô Dieu, pour leur donner ta sagesse et ton intelligence, Père éternel, et que ta grâce s'attende à toute leur famille, Père éternel, ô Dieu. Souviens-toi, Père, de tous ceux qui te servent d'une manière ou d'une autre, à quelque poste que ce soit, que le Saint-Esprit remplisse leur vie, Père éternel, ô Dieu, et que cette maison soit remplie de ta gloire, Père éternel, ô Dieu. Merci pour tout, Père éternel, ô Dieu. Viens, ô Dieu de miséricorde, travaille en chacun de nous, Père éternel. Nos cœurs sont un chantier, Père éternel, ô Dieu. Mais nous savons, Père éternel, qu'après un chantier, Père éternel, ô Dieu, la maison qui est debout est beau à regarder et aussi plein d'y vivre, Père éternel, ô Dieu. Merci pour tout, Père éternel. Nous comptons sur toi, Père éternel, ô Dieu. Maintenant, Père, raccompagne-nous, Père éternel, ô Dieu. Garde-nous de tout mal, Père éternel, ô Dieu. Préserve-nous, Père éternel, des dangers, ô Dieu, que nous côtoyons. Préserve-nous des dangers que nous-mêmes pouvons occasionner, Père. En toutes choses, Père éternel, que tu reçoives gloire, honneur et louange, Père éternel, ô Dieu. Nous confions, Père éternel, la répétition de demain entre tes mains. Que tu conduises tes enfants, Père éternel. Que tu les inspires, Père éternel. Toi qui connais les besoins des cœurs, puisses-tu, Père éternel, ô Dieu, inspirer, Père éternel. Et que, ô Dieu, cela puisse rencontrer les besoins des cœurs, Père éternel, ô Dieu. Souviens-toi, Père éternel, ô Dieu, des réunions en quelque lieu que ce soit, Père éternel, dans les maisons, Père éternel, ô Dieu. Que ta grâce se manifeste, Père éternel, ô Dieu. Embrase-nous par ton feu, Père éternel, ô Dieu. Guide-nous, soutiens-nous, Père éternel, ô Dieu. Merci pour la réunion de dimanche. Nous comptons sur ta grâce, Père éternel. Merci d'accomplir tes merveilles au milieu de nous, Père. Nous nous attendons et nous comptons sur tes faveurs, Père. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen.